Ce matin, dans les studios de Radio Royan-Vercors, on met le focus sur une création d'un spectacle qui s'appelle Vercors 1944 de la compagnie Ligne de Crête. Un spectacle autour du maquis, du Vercors dans les années 44. Et pour détailler tout ça, je reçois Manou de la compagnie. Bonjour Manou.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios. C'est un plaisir de te recevoir et de faire un point avec toi, peut-être déjà sur ta compagnie, la compagnie Ligne de Crête. J'imagine que ça parle de montagne.
Oui. Ligne de Crête, c'est une compagnie que j'ai créée l'année dernière pour en fait rassembler des spectacles qui existaient déjà et porter les futurs projets. Moi, ça fait 4 ans, enfin j'avais 4 spectacles déjà en création ou créés, mais qui étaient portés administrativement par des compagnies qui n'avaient rien à voir. Et donc j'ai eu vraiment envie de m'implanter sur le territoire du Royan-Vercors et pouvoir dire, ça y est, je suis là, j'ai envie de faire des projets ici. Et donc, c'est comme ça que, avec la rencontre avec Céline, qui est la présidente aussi de l'association, on a eu envie de créer cette compagnie, Ligne de Crête.
Et vous êtes basée où, du coup ?
À Saint-André-en-Royan.
Donc, tu t'installes dans le Royan, tu restes là pour les prochains temps, a priori.
C'est ça.
Et tu as envie d'être une artiste qui agit ici, et notamment sur la mémoire, puisque c'est vrai qu'on est sur un territoire où il y a pas mal de choses du côté patrimonial, du côté de la mémoire, et notamment de la résistance. D'où ça t'est venu, cette idée de travailler sur Vercors 44 ?
Alors, en arrivant sur le Vercors, donc moi, je me suis installée en 2021, je crois. Il y avait vraiment quelque chose de très fort, on ne peut pas faire l'impasse sur la résistance. Enfin, ça m'a vraiment marquée. Moi, je suis une personne qui aime aller en montagne, courir, faire des randos. Et vraiment, ça m'a marqué hyper fort, ce truc de la mémoire de la résistance. En parallèle, j'avais envie de travailler sur un nouveau projet et j'étais aussi impliquée sur d'autres échelles dans la lutte antifasciste. Et en fait, tout ça est venu se recouper. Pour moi, ça s'est d'un coup semblé un peu une évidence de faire un spectacle sur la résistance au maquis. Et après, par contre, c'était dans la recherche de bouquins, tout simplement. Je suis allée à la médiathèque de Pont, dans le rayon documentaire. Et en fait, je suis tombée sur ce bouquin qui s'appelle « Avoir 20 ans au maquis du Vercors » de Marc Serratrice. Et là, vraiment, j'ai été emportée parce que c'est le témoignage d'un maquisard. Donc, c'est Marc qui a 20 ans, qui va passer un an au maquis, qui raconte. Et il a une manière de raconter qui m'a vraiment emmenée parce que c'est presque comme un roman, alors qu'en fait, c'est un témoignage. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, sa manière de raconter où lui, il est super humble. Il rencontre vraiment à hauteur d'homme de c'est quoi la vie dans un camp. En fait, ils passent leur vie à attendre et à vivre en nature et à s'entraîner sans savoir ce qui va leur arriver. Donc, c'est pas une histoire de guerre. C'est vraiment une histoire de comment ça se passe, la camarade. En vivant en plein air dans des conditions hyper rudes, parce que le Vercors dans les années 40, c'est quelque chose, quoi. Et donc ça m'a vraiment parlé, ce truc de pas d'héroïsme, de guerre. Enfin, c'était vraiment juste la vie au maquis, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est aussi la rencontre aussi avec quelque chose un peu l'envers du décor, qui soit un peu moins les barricades, ou quelque chose de très romantisé, romantique autour de la lutte et de la résistance que tu as découvert, et une rencontre aussi avec son écriture, sa manière de raconter cette histoire et avec cette personne-là?
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait, quand j'ai ouvert le livre. Je m'y attendais pas. Et il raconte aussi c'est quoi d'être vulnérable, de pas savoir, de plutôt être pacifiste à la base et se rendre compte qu'en fait, tu vas avoir un fusil dans les mains, mais les armes n'arrivent pas. Donc, en fait, tu passes ta vie à t'entraîner avec des bâtons et à pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Enfin, c'était aussi tout ça. Et ce qui était assez dingue dans cette création, c'est qu'en fait, j'ai d'abord donc décidé de faire une adaptation de ce livre en spectacle. J'ai donc fait les démarches pour savoir à qui appartiennent les droits. Et là, j'ai découvert qu'il était vivant.
Tu ne savais pas quand...
Je ne le savais pas. Ouais. Il avait écrit le livre à 92 ans, c'était 10 ans auparavant. Enfin, qui vit jusqu'à 102 ans? Enfin, c'était quand même très improbable, quoi. Et en fait, c'est du coup en faisant ces recherches que grâce à Blandine Damieux-Verdeau, qui est une guide conférencière qui, elle, était en lien avec Marc et qui a eu vent de mon projet, qui m'a mis en lien, en fait, avec Marc. Et donc là, c'était énorme comme révolution, quoi. Du coup, ça a eu une influence directe sur la création du spectacle parce que ça m'a permis de le rencontrer. Donc, je suis allée le voir. J'ai pu l'enregistrer radiophoniquement. Et donc, dans le spectacle, il y a des interviews radio mêlées à moi qui joue Marc quand il a 20 ans. Donc ça a vraiment donné sa couleur au spectacle.
Et il était d'accord de te rencontrer parce qu'il y a aussi, j'imagine, si tu dis qu'il était humble dans sa manière de raconter tout ça, est-ce que, passé 90 ans, il a encore envie de parler de cette histoire à une jeune artiste qui a envie de créer quelque chose? C'était quoi son rapport à te recevoir?
Alors Marc, c'est quelqu'un qui a vraiment passé, je dirais, un an au maquis et 80 ans à raconter l'histoire. Il était vraiment hyper généreux. Il a été toute sa vie dans les écoles pour continuer à raconter, mais jusqu'à très vieux, en fait. Et là, il était aussi fort en lien avec Blandine, qui va le voir très régulièrement, qui fait un super travail avec l'école primaire d'Autran, qui maintenant s'appelle l'école Marc Serratrice. Donc, il y avait déjà aussi beaucoup d'archives sonores et vidéos que j'ai pu glaner, quoi, pour la recherche de ce spectacle. Et en fait, il a continué à être tout à fait généreux avec moi. Il m'a accueilli à bras ouverts. Il était très content de ce projet. Après, ça reste un monsieur de 102 ans qui, du coup, a les idées très claires sur ce qui s'est passé au maquis. Aussi, je pense, parce qu'il a beaucoup raconté, mais parce que c'est une mémoire lointaine. Mais qui me disait avec beaucoup d'honnêteté, je me rappelle du nom du général et de tous les copains. Mais par contre, j'arrive pas à me rappeler le nom des aides-soignantes qui viennent me voir tous les jours. Du coup, il y avait aussi cette chose-là. Il était de toute façon d'accord par principe et plutôt touché de la démarche. Mais quand je suis revenue le voir plusieurs mois plus tard, il avait oublié.
Oui, c'est ça aussi, c'est la question de la mémoire et de comment, quand on fait un récit, notamment d'une période assez courte, assez circonscrite dans le temps, la mémoire reste vive, alors qu'effectivement, ce qu'il a mangé la veille disparaît.
Mais du coup, j'ai eu l'occasion de jouer devant lui. Et donc devant lui et sa famille. Et en fait, lui, il a été touché. Mais je pense que c'était beaucoup plus impressionnant et émouvant pour moi que pour lui. Parce que lui, l'histoire, il la connaît, il l'a beaucoup racontée. Et sa famille était vraiment très touchée de voir qu'en fait, il y avait cette mémoire qui allait continuer à être vivante aussi par le spectacle, quoi.
Comment tu vis ça, toi, le fait d'incarner au plateau un homme, alors avec un écho de 80 ans d'écart. Est-ce que c'est une évidence pour toi? Alors, tu as les enregistrements, tu as cette histoire qui était écrite. Comment tu as travaillé ce personnage au plateau pour toi? C'était évident que c'était toi qui allais l'incarner?
Alors, pour moi, alors c'était évident dans le sens où c'était une création que j'avais envie de porter en étant au plateau. Au tout départ, c'était plutôt un projet de lecture. Du coup, c'est peut-être ça qui a donné aussi... Enfin, je ne me suis pas posé la question du personnage tout de suite, en fait. Et par contre, après, c'était en travaillant. Et donc, j'ai été accompagnée par Mbalou Arnould à la mise en scène et à la dramaturgie aussi sur ce spectacle. Et en fait, finalement, on s'est dit, la différence est tellement énorme entre Manou, 34 ans, qui vit en 2024 à l'époque, et Marc de 20 ans. Enfin, il y avait différence d'âge, d'époque, de genre, enfin... C'était énorme, qu'on s'est dit, finalement, on a fait un pas de côté, et en se disant, en fait, je vais l'incarner avec plutôt qu'est-ce que je ressens de cette personne. Donc, c'était de la pétillance, de l'enthousiasme, de l'excitation de c'est quoi d'avoir 20 ans et de se retrouver dans cette aventure-là. Et moi, je suis aussi danseuse, et du coup, finalement, on a complètement accepté de laisser parler mon corps de danseuse. Ce qui m'a libérée d'ailleurs dans la création, de se dire comment ça résonne, ces mots et cette aventure résonnent à l'intérieur de moi sans chercher à faire personnage.
Tout un travail aussi au plateau, effectivement, d'incarner quelque chose en faisant, comme tu disais, ce pas de côté. Et moi, je me demandais, d'un point de vue aussi politique, dans les périodes qu'on traverse actuellement, tu disais que tu étais engagée sur les questions antifascistes, comment ça résonne pour toi, sachant que Vercors 1944, il a pas mal tourné l'été dernier, on va y venir, il tourne encore cet été, c'est pour ça qu'on se rencontre ce matin. Quel goût ça a pour toi de faire ça encore aujourd'hui?
Pour moi, ça résonne quand même très fort avec les époques qu'on peut vivre aujourd'hui. Et les parallèles, pour moi, sont évidents de montée du fascisme. Donc, c'est pour ça que ça continue à faire sens pour moi de faire ce spectacle-là, qui n'est pas juste de la mémoire. Il y a un aspect mémoire, témoignage, documentaire qui m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi pour faire les liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pour moi, c'est une autre manière de parler d'antifascisme, un peu décalée. Ça permet de parler à d'autres personnes parce que il y a plein de gens qui sont passionnés par la résistance et qui pourtant sont capables de voter extrême droite aujourd'hui, par exemple. Et donc, pour moi, c'est important de faire ce lien-là entre le fascisme de 44 et le fascisme d'aujourd'hui. Et je vois que, par exemple, moi, j'ai grandi je suis née dans les années 90. Il y avait quelque chose où on avait forcément... Enfin, on nous a un peu bassinés avec la guerre, par exemple. On rencontrait des anciens résistants. Il y avait ce lien direct où on savait très bien que des partis d'extrême droite, c'était le fascisme. Enfin, le lien est évident, en fait. Et qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est manquante. Enfin, il y a un maillon manquant. Et aujourd'hui, c'est plus du tout une évidence pour les ados ou les enfants d'aujourd'hui. Et moi, je me dis qu'avec ce spectacle, ça peut permettre de raccrocher un peu les wagons, de remettre les choses à l'endroit et de voir d'où découle le Front National.
Oui, c'est comme si avec le fascisme monte au moment où les derniers partent. Et Marc, par exemple, est décédé l'année dernière, en 2025. Et voilà, et on sent ces derniers témoignages. Là, les gens ont été enfants pendant la guerre. On n'a plus de gens qui étaient adultes. Cette génération s'en va. Et on pourrait se dire, comme un lien de cause à effet, le fascisme remonte. Et c'est intéressant de dire, nous, dans nos programmes scolaires, dans les gens qui venaient au collège ou tout ça, on avait un lien direct. Et du coup, on pouvait associer au parti d'extrême droite.
Et aujourd'hui, il y a même des groupes d'extrême droite qui reprennent les symboles de la résistance. Alors ça, moi, j'ai eu du mal à comprendre comment c'était possible, mais tout s'explique. Mais avec reprendre les, les drapeaux, ça, c'est un grand sujet, le drapeau français. De qu'est-ce qu'on en fait? Qui le récupère? Est-ce que c'est intéressant de s'en saisir aussi? Mais la croix de Lorraine, les symboles de la résistance, par exemple, il y a des groupes de jeunes fachos qui vont parfois sur le Vercors faire des camps de survie, d'entraînement sur vraiment ce truc patriotique. Et en fait, à l'époque, le patriotisme, c'était lutter contre le fascisme. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Donc, pour moi, c'est important de retracer aussi l'histoire. Ça permet aussi de remettre les choses à l'endroit.
Et du coup, quel retour t'as quand tu l'as beaucoup tourné, donc dans des lieux aussi de mémoire, tout ça? Est-ce que tu l'as tourné aussi en scolaire? Quel retour t'as à la fois des adultes, à la fois des jeunes?
Alors, j'ai eu peu l'occasion de jouer en scolaire pour l'instant. Mais je pense que ça pourrait être tout à fait pertinent parce que c'est au programme aussi. Et c'est intéressant parce que j'ai joué à la fois dans des lieux plus alternatifs, où du coup c'est le lien avec l'antifascisme par exemple est évident, que dans des lieux plus touristiques, donc programmés par les offices de tourisme ou de mémoire, donc au mémorial de Vassieux, là je vais jouer au musée de la Résistance, ou alors avec la maison du patrimoine, où là ça touche des gens complètement différents. Et donc ça... Ouais, en tout cas ça m'intéresse de pouvoir parler à ces personnes-là, quoi.
Et du coup, d'avoir par exemple, des touristes qui sont... Il y a vraiment tout un tourisme autour de la résistance sur le Vercors, notamment l'été, que des gens tombent sur ton spectacle. Et est-ce que, je ne sais pas, tu as un temps d'échange après? Comment ça se passe?
Alors, la plupart du temps, oui. Donc, ce qui me vaut parfois des discussions houleuses, hein, ça arrive. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de jouer ce spectacle. Enfin, c'est pour provoquer la discussion politique aussi. Et sinon, il y a une version que j'aime beaucoup. Donc moi, je travaille vraiment en binôme avec Blandine Damieux-Verdeau. Donc elle est guide conférencière et elle fait des apports historiques sur tout le contexte. Et donc on propose une version où on est en déambulation autour du refuge de Gèves. Du coup, le refuge de Gèves, c'est vraiment l'endroit où le camp 3, donc Marc, où les jeunes du camp 3 sont venus passer l'hiver. Et donc aujourd'hui, c'est un refuge qui accueille des montagnardes, quoi. Et donc nous, on propose une journée, enfin une après-midi, où on va sur le refuge. Autour, on fait une petite randonnée, quoi. Et je joue le spectacle par extrait et Blandine apporte des éléments de contexte historique. Et ce que j'aime beaucoup dans cette formule-là, c'est que ça vient éclairer le spectacle. Enfin, les deux se répondent, en fait. Ça vient éclairer le spectacle vient éclairer les propos de Blandine. Et là, on a des vrais temps d'échange avec les personnes parce qu'en fait, on marche. Donc ça permet de poser des questions. Et avec Blandine, on est tout à fait au clair sur pourquoi on fait ça. On est raccord sur ça, donc ça permet de brasser vraiment un public plus large, quoi.
Encore une fois, quand le corps est en mouvement, et comment il se passe d'autres choses, et peut-être les informations infusent. Et aussi, ça fait un autre rapport avec toi qui es artiste, plutôt que ce truc de plateau, quoi.
Ouais, vraiment.
Et du coup, pour cet été 2026, tu continues à le jouer. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates qui vont se passer?
Oui. Alors, la première date, c'est vendredi 10 juillet. C'est organisé par la Maison du Patrimoine. Donc, c'est en diptyque avec Blandine qui, elle, va faire une visite guidée de Valchevrière le matin. Et moi, je joue l'après-midi au col du Lyorin. C'est à côté de Villard-de-Lans. C'est tout à fait possible de faire l'un ou l'autre. Mais nous, on le propose... Enfin, c'est la Maison du Patrimoine qui le propose comme une journée complète. Et donc, c'est une date en extérieur, dans une petite clairière.
Et ça, c'est à 14h au col du Lyorin.
Ensuite, il y a la version dont je parlais, vraiment en déambulation au refuge de Gèves, qui se passe le 22 juillet à 14h30 au parking de Gèves. Le 29 juillet à 17h, c'est une représentation à la chapelle en Vercors. C'est organisé par Verta Pop et la mairie de la chapelle. Le 17 août, on repropose la même formule avec Blandine en déambulation autour du refuge de Gèves à 14h30. Le 18 août, ce sera en nocturne au musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors à 20h. Et le 20 août, c'est la même formule que le 10 juillet avec la Maison du Patrimoine en diptyque avec Blandine qui fait Valchevrière le matin. C'est à 14h au col du Lyorin. Et la dernière date de l'été, c'est le 27 août à 10h à la médiathèque de Tulin.
Donc là, plutôt pleine, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais en Isère. Et quand tu joues en nocturne, par exemple le 18 août, est-ce que tu adaptes aussi la forme? Comment ça se passe?
Non, c'est la même forme, juste on met des lumières. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt, c'est pas le fait que ce soit nocturne ou pas qui change, c'est plutôt est-ce que c'est une salle ou est-ce que c'est dans la forêt? Parce que quand je joue en extérieur, j'essaye au maximum de m'imprégner de l'environnement extérieur et de pouvoir m'appuyer sur ce qui existe aussi.
Et en septembre aussi, autour des Journées du Patrimoine?
Oui, c'est ça. Donc ça, ce sera aussi programmé par la Maison du Patrimoine de Villars et ce sera une représentation au col du Lyorin.
le dimanche 20 septembre à 14h. Est-ce que tu as des envies de tourner ce spectacle Vercors 1944 aussi le reste de l'année, comme on évoquait des scolaires, parce que là c'est très concentré sur l'été. Comment ça se passe le reste de l'année?
Oui, moi tout à fait, je joue aussi ce spectacle le reste de l'année. L'été, ça permet de toucher les structures du tourisme ou du patrimoine qui ont un public très particulier à ce moment-là et de jouer en extérieur parce que c'est vraiment une plus-value, moi, je trouve, de jouer dans la forêt. Ce spectacle, ça raconte aussi autre chose. Enfin, il y a un décor qui est joli, quoi, qui est immersif. Mais moi, je suis tout à fait dispo, oui, pour jouer pendant l'année, ouais.
Et alors, avec la compagnie Ligne de Crête, est-ce que tu as d'autres choses dans les tuyaux, d'autres envies, d'autres projets?
Oui, il y a un spectacle dans les cartons qui est en phase de production qui s'appelle « Celle d'en haut », qui est un projet de spectacle autour des femmes en montagne, donc des personnes minorisées de genre et des femmes de c'est quoi ce vécu-là particulièrement quand on habite la montagne, quand on y travaille, quand on la fait vivre. Ce sera autour de toutes ces questions-là. Le travail de la compagnie, c'est quand même très souvent basé sur des témoignages de vécu, avec un aspect tout à fait documentaire. Et moi, j'aime beaucoup le média de la radio, donc il y aura des interviews radio dedans, qui se mélangent avec des formes hybrides, donc entre le spectacle et la danse, qui sont mes disciplines, et avec toujours la volonté de partir d'un témoignage d'un moment précis, d'un vécu particulier, pour aussi raconter quelque chose de notre société d'aujourd'hui. Et donc, ce spectacle s'inscrira tout à fait dans cette ligne-là. Donc, pour ce projet-là, je suis en phase de recherche de partenaires, que ce soit des institutions ou surtout en fait des structures qui accueillent du public et qui auraient envie qu'on monte un bout de projet ensemble pour faire des ateliers de médiation, faire du théâtre, de la créa radio pour travailler ce sujet ensemble, quoi.
Il me semble que Radio Royan Vercors va suivre ça de très près, voire de très très près. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce sera une création sur l'année 2027 avec
27-28, ouais, je
27-28, on vous tiendra au courant de tout ça. Mais toujours ce rapport à la montagne avec une couleur différente, une ambiance différente, comme là sur le maquis. Mais là, c'est plutôt la question des femmes et des personnes minorisées.
Oui, dans mes spectacles précédents, c'était plutôt des spectacles avec une forte entrée féministe. Et là, j'ai eu vraiment envie de travailler sur le témoignage de Marc. Et du coup, c'est pas ça qui ressort parce que dans la vie au maquis, il y avait très peu de femmes. En tout cas, dans son expérience à lui, les femmes sont très peu présentes directement. Elles sont nommées et très valorisées parce qu'en fait, elles étaient dans les ravitaillements. Enfin, Marc, c'est quelqu'un qui a toujours reconnu énormément la place des femmes dans la résistance, mais c'est pas directement visible dans le spectacle. Et donc là, je retombe aussi dans ce qui me tient fort à cœur, qui est une approche féministe de la montagne.
Et donc, si on veut suivre ce que fait la compagnie Ligne de Crête et avoir toutes les dates pour cet été, comment on s'y prend?
Alors, il y a un site internet, c'est ligne au singulier de crête au pluriel .fr. Et donc, il y a un onglet date avec toutes les dates de l'été. Et il y a aussi des réseaux sociaux, enfin un compte Instagram qui s'appelle Compagnie Ligne de Crête.
Voilà, donc comme ça, on sait où sont les rendez-vous, s'il y a des annulations à cause de la météo. Enfin bref, on suit ce qui se passe pour la compagnie Ligne de Crête. Merci Manou d'être venue à notre micro ce matin présenter ta compagnie et les deux projets.
Merci à toi.